écoutez Radio France Internationale, 11h du matin à Chișinău, en Moldavie, 10h à Paris.
Jeanne Bartoli.
Dans ce journal, ils doivent confirmer ou non leur destin européen. Les Moldaves appelés aux urnes aujourd'hui pour le second tour de la présidentielle. La présidente sortante pro-européenne Maia Sandu est opposée au pro-russe Alexander Stoyanoglu. Reportage en début de journal. Dernier week-end de campagne effréné avant la présidentielle de mardi aux États-Unis. Kamala Harris était hier en Géorgie à Atlanta. Reportage dans ce journal. Les leaders du mouvement contre la vie chère en Martinique aux Antilles françaises. Arrivés à Paris hier, ils appellent à manifester aujourd'hui. Et puis nous serons à Madagascar où le jeu vidéo japonais Tekken connaît un franc succès depuis plusieurs années, à tel point que le créateur du jeu vidéo était présent hier à Antananarive. Les Moldaves votent donc en ce moment pour le second tour de la présidentielle, scrutin placé sur place sous haute surveillance et qui prend des allures de nouveau référendum pour ou contre l'adhésion à l'Union européenne, alors même qu'un référendum très disputé sur la question a eu lieu il y a 3 semaines. Le oui l'avait emporté d'une très courte tête. Les électeurs départagent aujourd'hui la présidente sortante pro-européenne Maia Sandu face à Alexander Stoyanoglu, ancien procureur qui prône lui un rapprochement avec la Russie. Journée de vote suivie par Julien Chavanne.
Yulia est venue voter à la première heure. Le jour est important pour cette mère de famille.
Nous voulons un pays prospère. Nous voulons la paix, la tranquillité. Nous avons voté pour l'avenir de nos enfants, pour avoir une vie meilleure et sûre. Nous votons pour nos enfants afin qu'ils aient la meilleure vie possible.
Elle vient de cocher la case Maia Sandu sur son bulletin de vote. La présidente sortante a multiplié les appels contre les fraudes. Constantin Josanne est le président de ce bureau de vote où les deux candidats sont arrivés au coude à coude au premier tour.
Nous avons des observateurs nationaux et internationaux, des représentants des candidats aux élections et bien sûr, nous sommes les membres de la section électorale chargés de rendre le processus de vote transparent et équitable. Nous avons assuré une sécurité maximale au premier tour et bien entendu, nous ferons de même au second.
Des caméras sont installées au-dessus des urnes et dans la rue, la police patrouille avec un message diffusé par haut-parleur. Ne vous faites pas payer pour voter, c'est illégal. On connaîtra les résultats dans la soirée, mais personne d'ici là ne se risque au moindre pronostic. Julien Chavanne, Chișinău, RFI.
Autre présidentielle incertaine dans l'actualité, celle qui aura lieu dans 2 jours, maintenant mardi 5 novembre aux États-Unis. Les sondages donnent Kamala Harris et Donald Trump au coude à coude. Les deux candidats enchaînent les meetings à un rythme effréné. Comme en Géorgie, Kamala Harris était hier à Atlanta. Édouard Maille, notre envoyé spécial, a rencontré des démocrates présents et loin d'être unanimes sur une possible victoire de leur candidate.
Des rappeurs ambiancent la foule sous un soleil brûlant, puis Kamala Harris prend la parole, répète son programme pour aider les classes moyennes et réussir à réconcilier le pays. Michael Turk, 70 ans, est confiant d'une victoire ici en Géorgie, mais il s'inquiète des conséquences.
Oui, j'ai peur que si les républicains perdent, ils contestent les élections. Et peut-être qu'ils inciteront certains fans, leurs électeurs, à avoir recours à la violence.
Serge Do, un électeur ivoirien et américain, reste optimiste d'une victoire. Et c'est tant mieux, explique-t-il.
On aimerait bien qu'elle gagne quand on voit un peu ce qui se passe en face. Avec tout ce que dit Donald Trump, qui fait peur, qui vampirise un peu l'écosystème politique américain et le monde entier.
Il est venu avec sa fille, Soraya, 11 ans, qui est elle plus inquiète d'une victoire de Donald Trump.
He's gonna destroy the country.
Il va détruire le pays tellement que je ne vais peut-être pas pouvoir continuer à vivre ici. Ça fait assez peur, car j'aime les États-Unis, c'est chez moi.
Sur scène, Kamala Harris a insisté sur l'importance d'aller voter. Ce vendredi, la moitié des électeurs de Géorgie avaient déjà déposé leur bulletin par vote anticipé. Édouard Maille, Atlanta, RFI.
Et Kamala Harris qui a fait un crochet par New York ces dernières heures. Participation surprise au Saturday Night Live sur NBC, la grande émission satirique américaine. Dans l'actualité aussi, la situation toujours très tendue en Bolivie. Des partisans de l'ex-président Evo Morales retiennent non pas une vingtaine, mais au moins 200 militaires en otage, et ce après l'assaut de 3 casernes dans le cadre des manifestations antigouvernementales qui ont débuté il y a près de 3 semaines. Ça se passe dans la zone de Chaparré, dans le département de Cochabamba. Evo Morales a lui entamé une grève de la faim. Alors sur les causes de cette situation, écoutez le politologue politologue bolivien Gustavo Pedraza. Il est au micro de notre correspondante Camille Bouju.
Le Chapare est une région dominée par les cultivateurs de coca qui font partie intégrante de la chaîne du trafic de drogue, de sorte que la présence de l'État a toujours été faible là-bas. Et la prise d'otage est une preuve du contrôle des cultivateurs de coca qui soutiennent Evo Morales. Evo Morales cherche à éteindre l'action pénale contre lui pour viol sur une mineure. Il cherche donc d'abord l'impunité et ensuite il cherche à devenir candidat pour les prochaines élections. Ces deux demandes sont inconstitutionnelles et c'est pourquoi Evo Morales a entamé une grève de la faim. Ce qu'il veut faire avec cette action, c'est montrer qu'il n'encourage pas les blocages afin que le coût politique contre lui ne s'élève pas plus.
Le politologue bolivien Gustavo Pedraza. En plus bref, des milliers d'Iraniens se sont rassemblés ce matin dans le centre de Téhéran et à travers le pays pour célébrer le 45e anniversaire de la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis. C'était en 1979. Les manifestants brandissaient des drapeaux iraniens, mais aussi palestiniens, ainsi que ceux du mouvement chiite libanais du Hezbollah. Le 4 novembre 1979, un groupe d'étudiants, un partisan de la révolution islamique, avait pris d'assaut l'ambassade accusée d'être un idéaliste. Espions, ils avaient exigé pour libérer les otages que les États-Unis extradent le Shah d'Iran, déchu quelques mois auparavant. Le roi et la reine d'Espagne ainsi que le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez en visite aujourd'hui dans la région de Valence alors qu'une alerte aux fortes pluies a été émise pour aujourd'hui et demain dans la région. Le bilan des inondations meurtrières sur place s'élève pour le moment à 213 morts. Je vous le disais en titre, en France, les leaders du mouvement contre la vie chère en Martinique sont arrivés à Paris hier. Ils appellent à manifester aujourd'hui jusque sous les fenêtres du ministère des Outre-mer et ce pour dénoncer le protocole d'accord signé il y a 2 semaines entre l'État, les élus martiniquais et les acteurs économiques. Précision avec Marie Casadebé.
Un comité d'accueil de plusieurs dizaines de personnes l'attendait à l'aéroport d'Orly. Rodrigue Petitot est apparu reconnaissable de loin avec le chapeau rouge qu'il ne quitte jamais. Ce quadragénaire qui vit entre la Martinique et l'Est de l'Hexagone est à la tête du RPRAC, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. Le collectif est à l'initiative du mouvement contre la vie chère qui secoue l'île antillaise depuis septembre. Un protocole conclu il y a 2 semaines prévoit la baisse progressive de 20% des prix de 6000 produits vendus en supermarché. Le compte n'y est pas pour Rodrigue Petitot, dit le R. S'il est venu à Paris, c'est donc pour rapporter la souffrance du peuple au plus près de ceux qui dirigent. Et il compte pour cela sur la solidarité de la diaspora qu'il est venu rencontrer. Mais aussi le ralliement des autres territoires ultramarins. Le leader du RPRAC va ainsi participer ce dimanche à une manifestation organisée initialement par des collectifs kanaks de Nouvelle-Calédonie. Ils marcheront jusqu'au ministère des Outre-mer avec l'espoir d'y être reçus.
Marie Casadebé. Enfin, direction Madagascar, le jeu vidéo japonais Tekken connaît un franc succès sur place depuis plusieurs années, vendu à 58 millions d'exemplaires dans le monde depuis sa création en 1994. Il réunit chaque mois à Antananarive toute une communauté de passionnés qui s'affrontent lors de tournois. Hier, la compétition organisée dans la capitale avait une saveur particulière puisque le créateur du jeu vidéo était présent. Reportage Guillaume Fabry.
Manette en main, les yeux rivés sur les écrans, ils sont une centaine de joueurs à s'affronter en duel. Le principe de Tekken, chacun choisit un personnage et se livre à un combat d'art martial. Katsuhiro Arada, créateur du jeu vidéo, explique les raisons de sa venue à Madagascar.
Depuis la sortie de la version 7 de Tekken en 2015, le nombre de joueurs à Madagascar a soudainement augmenté. Il y a aussi de plus en plus de joueurs ailleurs en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Kenya également. Au Japon, Madagascar est célèbre pour ses animaux uniques. Je suis donc venu ici à la fois comme touriste pour découvrir la culture malgache et pour assister au tournoi.
Dans les compétitions internationales du jeu Tekken, Madagascar s'est imposée comme la première nation africaine et a même l'ambition d'atteindre le top 3 mondial. Yondaim, 22 ans, participera à un tournoi au Japon en décembre.
Tekken à Madagascar, c'est comme un genre de culture. C'est le jeu de combat le plus joué à Madagascar en ce moment. Pas en gros, je veux dépendre de ça pour gagner ma vie. Je viens de finir mes études là. Mais c'est vraiment le rêve, l'idéal quoi, pour moi en tant que joueur en ce moment de me professionnaliser dans le domaine de l'e-sport.
Yondaim a aussi un autre rêve, qu'un personnage malgache fasse bientôt son entrée dans le jeu vidéo Tekken. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Antananarive, il est midi 10, 10h10 ici à Paris. Vous restez à l'écoute tout de suite, grand reportage.